Je voulais d'abord remercier les doctorantes qui sont déjà des grandes professionnelles de l'organisation de colloques parce que c'est remarquable. Et me présenter, j'ai donc l'honneur de présider cet après-midi et je serai l'animatrice de la deuxième table ronde. Mon nom est Sophie Guérardi. J'ai été journaliste pendant une très grande partie de ma carrière professionnelle et quand j'ai cessé d'être journaliste, eh bien je me suis intéressée aux faits religieux, ce qui fait que la synthèse est réalisée. Il n'est pas inintéressant que je vous raconte un petit peu mon expérience, c'est d'ailleurs ce que l'on m'a demandé de faire, puisque j'ai créé en 2012 un site d'information, en ligne donc, qui s'appelait faitsreligieux.com. Je dis qui s'appelait car 3 ans plus tard, eh bien, cette jeune pousse a dû être coupée puisqu'il n'y avait plus d'argent pour la maintenir en vie. Donc c'est une expérience, nous sommes dans l'histoire immédiate, mais c'est quand même de l'histoire. Et c'était peut-être pas inintéressant que je vous explique quelle avait été ma démarche pour créer en France en 2012, mais enfin la préoccupation avait commencé à m'intéresser dès 2010. Pourquoi un site faitsreligieux.com dans un pays comme la France? Eh bien, c'était tout simplement parce que j'avais constaté, comme journaliste plutôt spécialiste de l'économie, de l'international, de la vie des idées, que en France, il y avait une sorte de peut-être de méconnaissance assez importante, en tout cas d'indifférence face au ce que j'appelle moi le mobile religieux, c'est-à-dire que négliger complètement le fait que la religion ou au nom de la religion, on peut agir et faire des choses et se positionner un peu différemment du reste de la société et que en France, on avait vraiment du mal à comprendre cela. Donc, je me suis inspirée d'exemples américains. Il y a aux États-Unis un site qui s'appelle Religion News Service qui donne depuis de très nombreuses années beaucoup d'informations de toutes sortes sur le fait religieux au sens le plus large du terme. Et puis, il y avait un autre site plus incisif et plus éditorialisé qui s'appelle Religion Dispatches. En tout cas, ces deux sites m'ont fait penser qu'il y aurait de la place en France pour un site qui donnerait de l'information sur toutes les religions pour éviter deux écueils que j'avais constatés dans les journaux où j'avais travaillé, c'est-à-dire d'abord une méconnaissance générale du sujet, mais aussi des pics névrotiques, c'est-à-dire qu'on se met à parler brusquement de sujets religieux, donc tout le monde se met à en parler un peu à tort et à travers, et toujours dans un contexte de stridence, de stress, et que donc il pouvait être intéressant et utile de donner de l'information. Eh bien, j'allais dire même les jours normaux, de l'information qui permet de se faire une idée plus exacte du paysage religieux et de sa vie en France et ailleurs. Donc c'était une belle idée, j'y ai mis des moyens, des journalistes, et j'ai eu un petit succès d'estime auprès des gens que ça intéressait, auprès d'un certain nombre de lecteurs, mais je me suis heurtée au problème général de la crise de la presse, au problème général du manque de modèle économique de la presse en ligne, et au problème particulier en France que la religion, on a quand même beaucoup de mal à en parler et à s'y intéresser de façon, j'allais dire, naturelle. Voilà, donc j'ai dû le fermer, fin de l'histoire. Mais avant de passer la parole à notre panel, je voulais vous faire quelques observations vont certaines dans un sens un peu attristant et d'autres sont plutôt encourageantes. Ce qui est un petit peu attristant, donc, puisque ce sont des expériences que j'ai eues récemment, ça veut dire qu'on est en 2016, que donc les choses n'ont pas tellement avancé. Je vous donne un exemple. j'étais invitée à France Culture. Et le journaliste qui invite les gens autour de la table dit « Mais tout de même, on vit dans une période incroyable, les religieux s'invitent dans les médias. » Donc, il se moque du monde. Il sait bien que personne ne s'invite dans les médias. On est invité dans les médias. Ou alors, on fait quelque chose et on devient un sujet pour le traitement médiatique. Mais si vous êtes dans les médias, c'est que quelqu'un vous y a invité et que nécessairement, c'est la personne qui est en charge de l'émission. Voilà. Première chose, donc, c'était une façon de dire, voilà, il y a de la religion partout, mais nous, les journalistes, nous le subissons et nous n'y sommes pour rien. Premier exemple. Deuxième exemple, la semaine dernière, je suis interrogée par une radio qui devait m'interroger sur le fait religieux dans l'entreprise, qui est une de mes domaines de compétences. Et on me pose à la place, pour commencer, une question sur Monseigneur Barbarin et la crise de la question de pédophilie dans l'Église de France et notamment à Lyon. Bon, d'accord. Et la question est formulée de la sorte. Combien de temps, Monseigneur Barbarin, peut-il tenir? Alors ça, c'est extraordinaire, parce que ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas un élu, ce n'est même pas un personnage médiatique qui pourrait avoir à démissionner sous les huées. Et c'est vraiment méconnaître d'abord la nomination des évêques qui est faite par le pape, et le fait que Monseigneur Barbarin n'a pas à répondre devant le peuple, éventuellement devant la justice, comme n'importe quel justiciable. Mais combien de temps va-t-il tenir? C'est vraiment pas une question très bien formulée. Voilà, ça c'est pour dire, ah là là, tout va mal, on ne sait toujours rien. Et vous avez vu que je n'ai pas parlé d'islam. Mais l'autre information qui me paraît plus porteuse d'optimisme, c'est à propos de la laïcité. Quand j'ai commencé, il y a donc plus de 5 ans, tout le monde, quand je rencontrais les gens, notamment dans les entreprises, ils disaient, mais de toute façon, la France est laïque, les entreprises sont laïques, n'est-ce pas? Je dis, oui, nous sommes tous nous sommes une société qui est profondément imprégnée de cette laïcité républicaine, mais très objectivement, la laïcité, ça s'applique à l'État, à ses extensions, et puis c'est tout, pas au reste de la société, notamment pas aux entreprises. Alors, et à l'époque, les gens étaient très étonnés. Alors, il y a une enquête qui se fait chaque année par l'Observatoire du fait religieux en entreprise et l'Institut Randstad, qui interviewe des managers sur les questions de fait religieux dans l'entreprise. Et j'ai pu constater, entre l'enquête 2014 et l'enquête 2015, qui a eu lieu après les attentats de Charlie Hebdo, une grande différence dans la compréhension de la laïcité chez les managers interrogés. 2014, donc avant les événements, 75% des managers, enfin les 3/4 des managers interrogés, n'ont rien à dire de la laïcité et ne savent pas répondre qu'est-ce que c'est la laïcité. Enfin, ils s'en fichent, quoi. Un an après, et donc l'enquête a été faite après des semaines et des semaines d'interrogations, de débats publics à la télévision sur la laïcité, la place de la laïcité, ça vous intéressera, monsieur Bianco, je pense. Eh bien, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'au lieu d'avoir 3/4 de personnes qui répondent qui n'ont rien à dire, on a 3/4 de personnes qui répondent, qui ont quelque chose à répondre pour savoir ce que c'est que la laïcité. Et, surprise ultérieure, ils savent la définir. C'est-à-dire que c'est la liberté de conscience, c'est la garantie de libre exercice des cultes. Des expressions du type « c'est l'interdiction de la religion dans l'espace public il y a 5 ou 6% des gens qui répondent que c'est ça la laïcité. Donc, qu'est-ce que j'en conclus? Que le débat public finit par informer les gens. Voilà. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je vais maintenant cesser de parler, mais vous présenter la personne qui présentera la table ronde. Nous avons alors Jean-François Maillère au milieu, le milieu représente la majesté de sa position. C'est un historien. également, historien des religions, spécialisé dans les mouvements religieux contemporains. Il est basé à Fribourg, Suisse, et il est également directeur du très remarquable, ça c'est moi qui ajoute, institut et site internet Religioscope. Monsieur, c'est à vous.
Eh bien, je vous remercie pour cette introduction, et vous voyez que nous sommes ici dans un cadre apparemment très hiérarchique. Il y a d'abord la présidente de séance, puis le modérateur, puis les participants. Nous admirons vraiment le sens de l'organisation de celle qui nous invite. Et évidemment, ça devient rituel de les remercier, mais il faut le faire, parce que je peux vous dire qu'en tant que modérateur, j'ai pu constater qu'elles ne sont pas simplement contentées d'inviter des gens et de dire « allez-y ». Elles ont proposé un schéma de discussion à chacun d'entre nous. Elles ont imposé des devoirs. Voir un certain nombre de questions auxquelles nous sommes supposés... Ça va mieux comme ça ? Un certain nombre de questions auxquelles nous sommes supposés répondre, et évidemment, nous allons nous y attacher. Alors, je suis modérateur, donc je ne dois pas abuser de mon rôle, mais en revanche, on m'a demandé d'être dans cette position un peu difficile, à la fois d'être modérateur et intervenant, et de parler moi aussi 10 minutes en introduction. Je vais le faire, et ensuite je vais vraiment me replier sur mon rôle de modérateur. Et les organisatrices m'ont demandé de vous parler précisément de Religioscope, du site Religioscope, mais je dois dire qu'il s'inscrit évidemment dans une démarche plus large pour moi, qui est celle de la question du lien entre les recherches que nous faisons et la communication du résultat de ces recherches à un plus large public. Et cet effort, il ne s'est pas simplement exprimé pour moi à travers Religioscope, mais aussi à travers la codirection pendant des années d'une collection de poches sur le religieux aux éditions du Cerf qui s'appelait la collection Bref. Et d'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote. Un des premiers titres que nous avions publié dans les années 80 était Le réveil de l'islam. Et les éditions du Cerf s'étaient dit, mais il faut enfin que le livre, non pas religieux, mais sur les religions, d'information sur les religions, puisse gagner un public plus large. Donc nous allons engager un représentant pour essayer de placer ces ouvrages écrit par des spécialistes pour le grand public, dans les supermarchés. Et il y a eu des tentatives de ce genre, avec parfois des effets absolument inattendus, comme ce directeur de supermarché qui a dit « mais vous n'y pensez pas, le réveil de l'islam dans nos rayons, nous ne voulons pas avoir des bombes ». Et nous étions dans les années 80. Donc vous voyez qu'il y a en effet des craintes de longue durée. Une autre chose dont je m'occupe depuis des années, c'est alors en anglais, la newsletter Religion Watch, dont je suis rédacteur en chef associé, et qui est, ça c'est une bonne nouvelle, depuis le mois de février, en accès entièrement libre, religionwatch.com. C'est chaque mois de petites nouvelles courtes, surtout à travers un scan des revues scientifiques, des colloques, sur les tendances dans le domaine religieux. Et vous pouvez, ça a été repris depuis le mois de février par l'université de Baylor à Waco, Texas. Waco connu pour autre chose, mais il y a aussi une excellente université. Et je pense que ça peut être intéressant pour vous qui lisez l'anglais, qui vous intéressez aux religieux. Ah, c'est la limite des 10 minutes, voilà, mais d'accord. De vous y abonner. Par ailleurs, les archives sont disponibles à l'adresse religionwatch.cc. Le nom de domaine va changer prochainement, mais je ferai une redirection. Si, ne pensez pas que j'ai une passion pour les îles Cocos, dont c'est le nom de domaine de premier niveau, encore que c'est une destination exotique, sans doute plaisante, mais si, c'est Carbon Copy. Je me suis dit que pour un site d'archives, ça allait bien, mais ce nom de domaine va changer. Et là, il y a à peu près 20 ans d'articles qui sont disponibles en libre accès depuis le mois dernier, donc je pense que pour des gens qui s'intéressent aux religieux, ça peut être intéressant. Alors, Religioscope, c'est une idée que j'ai eue dans les années 80. Mais les années 80, c'était avant Internet. Et avant Internet, ça signifiait que lancer un périodique, c'était beaucoup trop lourd administrativement pour les abonnements. D'où l'idée qui m'est revenue au début des années 2000, grâce à Internet. Et ça, je crois que si je pense à ce qu'est Religioscope, c'est d'abord un produit de l'ère Internet. C'est-à-dire que l'ère Internet, nous n'avons pas fini de mesurer les transformations qu'elle implique pour les religions, mais aussi pour la recherche, pour l'information, nous devenons tous potentiellement des producteurs d'informations de qualité plus ou moins grande, à condition de savoir faire entendre notre voix dans le grand brouhaha du web. Alors, pourquoi ce désir de créer un tel site? Je pense que c'était des questions assez semblables en 2002, parce que je l'ai lancé en 2002, assez semblables à celles évoquées par Madame Gherardi. Ça n'était pas simplement pour le plaisir de communiquer directement, mais le sentiment qu'il y avait place pour une information sur les facteurs religieux à la fois empathique et non confessionnelle, c'est-à-dire à la fois avec la distance de la recherche, mais l'intérêt pour les religions prises au sérieux, pour les croyances prises au sérieux, pas simplement les religions comme facteurs sociaux, c'est important, mais aussi les croyances prises au sérieux, leur interaction avec ces facteurs sociaux. Et c'est aussi le choix un peu d'une position de celle que rappelait Timmy Hansen dans son exposé d'hier, une position qui se situe un petit peu en recul par rapport aux débats sociaux. Il existe certes des sources d'informations qui nous donnent des informations religieuses de qualité en français, mais il faut dire que la position justement non seulement non confessionnelle, mais aussi refusant de tomber dans le prescriptif, de dire ce qui est la bonne ou la mauvaise religion, ou la sympathie instinctive pour une certaine orientation religieuse, c'est justement quelque chose que je ne veux absolument pas. Je veux que, idéalement, sur ce site, des gens qui puissent appartenir à des camps antagonistes dans le champ religieux puissent dire c'est honnête. Ça présente honnêtement la situation, nous sommes d'accord ou pas, mais c'est une présentation honnête de la situation. Et ça, c'est l'objectif, c'est le rêve de Religioscope. Et je dois vous dire combien de fois je fais la chasse, par exemple, à l'adjectif disqualifiant. Dans des articles, vous avez tout à coup un adjectif qui oriente vers un jugement ce qui serait sinon simplement une description. Et donc ça, j'y fais constamment la chasse. On n'y arrive pas toujours parce que le problème, c'est toujours le problème de l'argent. Religioscope, par qui c'est financé? Par personne. Donc ça repose sur beaucoup d'efforts, beaucoup de travail nocturne et très peu de ressources. Et donc ça signifie que bien sûr, si vous pouvez payer les auteurs, c'est beaucoup plus simple de leur imposer une grille d'écriture très stricte avec des auteurs qui pour la plupart collaborent de façon bénévole. Je ne peux pas aller trop loin, je peux rejeter un article, mais je ne peux pas non plus exiger toujours des réécritures constantes d'articles. Mais je peux pousser à un certain idéal, un idéal évidemment auquel on n'arrive pas toujours, mais qu'il vaut la peine, je pense, de poursuivre. Quelque chose aussi peut-être de particulier à Religioscope, c'est que délibérément, je m'intéresse aussi bien aux macro-sujets, aux grandes tendances, qu'à des petits sujets qui pour certains relèveront de l'anecdote, mais qui passionnent les lecteurs et qui me font plaisir et qui sont souvent plus révélateurs que de grandes déclarations, de petites évolutions du religieux, de phénomènes auxquels on ne prête pas attention. Ça m'a fasciné. Pendant des années, l'article le plus visité a été une petite synthèse que j'avais faite sur les Abayudaya de l'Ouganda. Les Abayudaya de l'Ouganda, que vous connaissez certainement tous, je n'aurai pas l'injure de vous le rappeler, ce sont des Ougandais convertis au judaïsme et dans un village de l'Ouganda, dans une région de l'Ouganda. Et ça a fasciné les lecteurs. C'était, et alors vous allez me dire, bon, alors d'accord, vous avez un goût connu, prononcé pour les petits mouvements religieux. Eh oui, d'accord, mais apparemment les lecteurs aussi. Ça a intéressé beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecteurs. C'est resté pendant des années l'article le plus visité. Et je crois que le fait que, par exemple, des gens en plein Ouganda embrassent le judaïsme, ça n'est pas totalement anecdotique. Ça dit énormément de choses sur des représentations, sur des circulations. On peut, à partir de faits qui paraissent anecdotiques, tirer réellement des enseignements intéressants sur le fait, la circulation, le phénomène religieux aujourd'hui. Alors, je je sais, si certains d'entre vous ont visité le site récemment, qu'il a été assez peu mis à jour récemment à cause d'autres activités qui m'ont pris beaucoup de temps. Mais je vous rassure, il ne va pas fermer. Il va reprendre une activité un petit peu plus soutenue dans ces prochains mois, probablement dans la deuxième moitié de l'année. Mais je suis aussi en train de préparer la migration vers une nouvelle plateforme de gestion de contenu. Et ça va être un énorme travail qui demande beaucoup de temps. Vous savez, je crois que parfois, je passe autant de temps, alors que je n'ai rien de technique, rien d'informaticien, autant de temps avec les aspects techniques qu'avec le contenu. Enfin bon, il faut bien s'en occuper. Et donc, ce passage vers une nouvelle plateforme est destiné véritablement à pérenniser le site. Mais je ne vous en parle pas plus parce que c'est un défaut que j'ai constaté de plus en plus quand j'assiste à des séances de discussion autour des nouveaux médias, journalisme, presse, etc. On finit par discuter uniquement le dernier gestionnaire de contenu que j'ai trouvé, ce nouveau plugin exceptionnel, et on ne discute plus du tout du fond. À croire que pour finir, c'est entièrement l'emballage qui compte. Alors, si je devais dire ce qu'est Religioscope, je le décrirais un peu comme une forme peut-être de journalisme académique. Je crois que c'est un petit peu plus, un peu dans ce sens qu'on va. C'est-à-dire vraiment l'idée de créer des ponts entre la recherche et un public plus large. Et c'est aussi derrière tout cela, bien sûr, l'idée d'inciter des chercheurs à s'exprimer d'une façon compréhensible pour un plus large public et encore autre chose, désenclaver le regard. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une tendance, par exemple, d'auteurs américains à lire le monde spontanément à travers un regard américain, d'auteurs français à lire le monde à travers une lecture française, et c'est essayer de désenclaver, de rendre ce dont on parle compréhensible à des gens qui soient dans des contextes culturels, linguistiques très différents, y compris au fond de l'Afrique, y compris en Océanie, et qui... Bon, alors je dois conclure, parce que sinon, je vais justement abuser de mon privilège de modérateur, ce qui n'est pas le but, mais simplement conclure en disant que l'Institut Religioscope a mené un petit projet qui malheureusement ne se poursuit plus maintenant, qui était le projet Médias et Religion. Il s'agissait de former conjointement des journalistes de différentes régions du monde au traitement du fait religieux. Et nous avons mené ça pendant un an grâce à un soutien du ministère des Affaires étrangères suisse avec une formation conjointe de journalistes de Suisse, d'Égypte et du Soudan. Et j'avais un projet de continuation pour 3 ans en intégrant en plus des journalistes de la Russie. Et malheureusement, à la suite d'un changement de direction du département qui s'occupait du projet, à un mois de signer le renouvellement de l'accord pour 3 ans, il a été supprimé, ce que je regrette beaucoup parce que ça, c'était aussi pour désenclaver les regards, un travail extraordinaire. Mais vous trouvez la mémoire de ce projet en anglais à l'adresse Media Religion. Voilà, alors je ne vais pas plus loin parce que, mais enfin, j'aurais voulu vous parler plutôt peut-être de mon expérience des journalistes, des médias, mais ça n'était pas la demande des organisatrices. J'espère que ce que j'ai pu dire ici présente quand même un intérêt pour vous. Et puis, je souhaite maintenant surtout introduire ceux que vous êtes venus écouter, c'est-à-dire tout d'abord Jean-Louis Bianco, qui est évidemment le président de l'Observatoire de la laïcité, auquel les organisatrices ont adressé une impressionnante liste de questions. Je ne sais pas s'il parviendra à répondre à toutes, mais en tout cas, je ne parle pas plus longtemps pour lui laisser la parole. Merci, Monsieur Bianco.
Sinon, ceci doit marcher. Et s'il ne marche pas,
très bien. Est-ce que oui, ça marche. D'abord, merci de votre invitation. Je crois que ce colloque est opportun et important. Je vais essayer de répondre, en tout cas, à certaines des questions, car sinon. Comme j'ai une dizaine de questions et une dizaine de minutes, ce serait un peu difficile, d'autant qu'il y a des choses que j'ai envie de dire qui ne sont pas dans les questions. Et je vais commencer par ça. Dans le sujet qui nous rassemble, il y a un certain nombre de phénomènes qui tiennent au système médiatique en général, et pas spécifiquement aux questions de faits religieux ou de laïcité. Ce qui me frappe, c'est que nous sommes tous pris, en tout cas les citoyens, les intervenants politiques ou les responsables, et les journalistes, dans un système médiatique qui me paraît profondément dangereux pour la démocratie. Je veux dire par là que c'est la dictature de l'audience, la dictature de l'instant, de l'immédiat, de l'émotion. Et ce phénomène est encore plus grave, à mes yeux, ou parmi les plus graves, quand il s'applique à des questions comme les faits religieux ou la laïcité. D'autant plus, et c'était très bien dit dans le papier justificatif, l'argumentaire pour ce séminaire, et Sophie Gherardi lui a fait aussi fort justement allusion, que les faits religieux deviennent des événements médiatiques. Et je suis très frappé de voir que dans le travail de l'Observatoire, qui consiste à observer, c'est-à-dire à essayer de dresser un état des lieux, nous avons des difficultés objectives de recueil de l'information, mais nous sommes nous-mêmes toujours à nous interroger sur le point de savoir si la réalité ressemble vraiment à ce que les médias en disent. Avec ce que disait Sophie Gherardi tout à l'heure, cette espèce de fièvre médiatique, dont on a des exemples constamment, fièvre qui monte à toute allure, surtout avec les réseaux sociaux et Internet, et puis qui s'arrête. L'exemple le plus récent d'une fièvre qui est montée, qui à ma connaissance s'est arrêtée, et qui a enflammé le pays, c'est les crèches de la nativité. À en croire un certain nombre de médias et d'interrogations que nous avions, c'était le sujet touchant à la laïcité en France. Faut-il interdire ou pas? Est-ce qu'on a le droit ou pas des crèches de la nativité? Il y a d'autres sujets plus importants. Et pourquoi? Ça, c'est aux chercheurs et aux journalistes de lire. Pourquoi est-ce que brusquement on se met là-dessus alors qu'il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, on se mettait sur autre chose? Ça s'ajoute le fait que dans cette urgence, et encore une fois, je le dis d'autant plus que les journalistes qui s'occupent de faits religieux ou de laïcité que j'ai appris à connaître sont pour beaucoup des gens sérieux et compétents. Mais je vois que même des gens sérieux et compétents sont pris dans ce système qui se traduit par le fait qu'un fait énoncé sur Internet n'est pas forcément vérifié, qu'un fait rapporté dans une dépêche de l'AFP, généralement c'est très sérieux, n'est pas forcément vérifié, donc le travail de vérification des faits dans l'urgence n'est pas toujours fait. En plus, s'ajoute un goût très français pour le commentaire et le jugement, on éditorialise plus qu'on apporte des éléments d'information. Et j'en ai un exemple, j'étais récemment à un colloque à Tours sur médias et laïcité, avec des gens très bien et fort intéressants, j'ai été... Croyez-moi, quasiment le seul des intervenants à parler de médias et laïcité, tous les autres donnaient leur opinion sur la laïcité. C'est moi qui n'étais pas journaliste qui essayais le plus de parler de médias et de laïcité. Donc ce phénomène est d'autant plus grave qu'on va jouer sur les titres, on va jouer sur les images. J'ai eu l'occasion, et je réponds à une des questions qui sont posées, de relever, nous avons eu l'occasion de relever, que dans un certain nombre de journaux, et pas toujours des moindres, quand on parle du voile, on montre une burqa. Je prends un autre exemple un peu provocateur qui est dans l'actualité d'aujourd'hui, qui relève du libre choix éditorial et qui peut se comprendre. L'Express titre « Sexe et Islam ». On pourrait traiter « Église catholique et sexe ». En même temps, c'est dans l'actualité. Voilà, donc je dis ça avec un peu de provocation, mais le choix, ce genre de choix a un poids très lourd. Autre exemple encore pour répondre aussi aux questions, en précisant qu'il n'y a pas de journaliste parmi les membres de l'Observatoire de la laïcité, mais que nous avons comme... Plusieurs d'entre vous ici le savent et sont des acteurs, essaient de monter un petit groupe de travail avec à la fois des journalistes, des chercheurs et des responsables éditoriaux. On va continuer parce qu'il y a un besoin, une demande et un intérêt réel pour essayer de travailler là-dessus, de réfléchir ensemble à comment ça se passe, un peu dans la ligne de ce que vous faites ici aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas de journalistes. Nous auditionnons évidemment, dans le cadre de notre rapport annuel, les représentants des cultes. Nous sommes en contact avec de nombreux journalistes. Nous auditionnons les... principales obédiences maçonniques, nous auditionnons les associations d'éducation populaire, etc., etc. Mais je veux en revenir à la manière de rapporter les événements sur un exemple concret qui touche le grand quotidien de référence du soir. Au mois d'août 2013, peu après l'installation de l'Observatoire de la laïcité, alors que pour la première fois depuis longtemps, je suis tranquille dans ma maison en Haute-Provence, je découvre, avec retard bien sûr, parce que je n'ai pas le nez toujours sur mon ordinateur, la une du Monde. Grand titre en une du Monde, un rapport officiel recommande l'interdiction du foulard à l'université. Le Monde ne m'a pas appelé. Les journalistes en question connaissaient l'existence de l'Observatoire et de son président. Ce n'est pas un rapport officiel, c'est un projet de rapport du Haut Conseil à l'intégration, par ailleurs très discutable sur le plan méthodologique, que le Haut Conseil à l'intégration, dans la commission laïcité, nous avait remis en disant « maintenant c'est à vous de travailler ». L'Observatoire de la laïcité, après 6 mois de travail, ayant auditionné 23 syndicats, tous les syndicats représentatifs, ayant envoyé un questionnaire à 130 universités, IUT, etc., ayant travaillé avec la conférence des présidents d'université, fait un rapport dans lequel il dit qu'il n'y a pas de problème majeur avec le foulard à l'université, et personne, sauf peut-être l'UNI qui était ambigu, ne recommande l'interdiction du foulard à l'université. Un quart de page en page 23. Un quart de page en page 23. Autre exemple, le Conseil français du culte musulman, qui a fait récemment avec d'autres organisations musulmanes des déclarations importantes par rapport à la condamnation nette du terrorisme de Daesh et aussi au respect, à l'engagement vis-à-vis du pacte républicain et de la laïcité, avait déjà fait un premier pas il y a presque 2 ans. Il avait fait un travail qui s'appelait la Convention pour l'islam de France, dans lequel il disait, entre autres, « Nul ne peut invoquer sa religion ou la religion pour refuser qu'une femme soit soignée par une personne du sexe opposé », ce qui, culturellement, n'était à mon avis pas évident pour eux. L'Observatoire de la laïcité, unanime, dit « c'est formidable », fait un communiqué. Je fais 3 conférences de presse, j'ai 5 lignes dans la Croix et 3 lignes dans le Monde. Par contre, au même moment ou à peu près, surgit sur Internet le buzz, la rumeur que des jeunes filles, cadettes, jouant au basketball dans la région du Mans, jouent en robe couvrante et avec des gants. Je suis sollicité pour faire les 20 heures de toutes les télés, toutes les radios pour dénoncer cette atteinte intolérable à la laïcité. Comme j'ai un minimum de sérieux, je me renseigne. Ça n'est pas des robes couvrantes. D'ailleurs, je pense que si c'était un peu serré, ce n'est pas très commode pour jouer au basket. Encore moins des gants. Elles ont des espèces de bandanas chèches qui, 2 sur 15, qui ne gênent pas les 13 autres, qui ne gênent pas les parents, qui ne gênent pas l'entraîneur. Voilà. Là, ça, ça intéresse. Ça intéresse parce que c'est émouvant, préoccupant, agaçant. Et puis, il y a, vous l'avez dit, le rôle des adjectifs. Qui sont maniés parfois de manière imprudente. C'est d'ailleurs pour ça, entre autres choses, qu'avec beaucoup d'autres, je me garde bien d'adjectiver la laïcité, car l'adjectiver, c'est la tirer dans un sens ou dans un autre. Ouverte, fermée, de combat, compromis, etc. Et donc, il y a un vrai problème dans le traitement de ces événements, dans le recul nécessaire. Quand nous appelons un traitement contextualisé, c'est que le devoir, nous semble-t-il, des journalistes, est de situer dans l'histoire, y compris histoire récente, dans un débat, de distinguer le fait du commentaire, de donner des informations exactes sur ce qui est dans le droit, avec constamment sur les sujets de laïcité un mélange entre ce qui est le droit et ce qui pourrait être le droit. Je prends un exemple, un sujet très controversé et évidemment controversable. Les parents accompagnateurs de sortie scolaire. En fait, les mamans accompagnatrices de service scolaire. En fait, les mamans qui portent un foulard en accompagnant des sorties scolaires. Mais ça, il faut le dire. C'est la vérité. D'ailleurs, il y a une bataille de vocabulaire. Si vous dites « maman accompagnatrice », vous êtes soupçonné a priori d'être favorable, parce que c'est émouvant une maman qui accompagne. Et si vous dites « parent accompagnateur », vous respectez un devoir de neutralité. Les journalistes doivent savoir cela, ne pas être dupes des jeux qui se passent autour de l'emploi des mots. Donc, quel est le droit? Le Conseil d'État a dit, je vous la fais brève, ça n'est pas des collaborateurs occasionnels du service public. Ils ou elles ne sont donc pas astreints à la neutralité qui s'impose aux agents publics. Et par conséquent, le principe doit être que c'est possible sous réserve des restrictions générales aux libertés, pas de prosélytisme, pas créer de désordre, pas créer d'incidents. C'est la position que prend, après l'avis du Conseil d'État, la ministre de l'Éducation nationale. Vous avez encore de très nombreux articles qui disent que ce qu'a dit le Conseil d'État n'est pas vrai. Bon, moi je veux bien, on a le droit de contester le Conseil d'État, la Cour de cassation. De dire ça n'est pas le droit. Qu'on dise c'est problématique, qu'on dise je ne suis pas d'accord avec le droit existant, qu'on dise il faudrait changer le droit, bien sûr, mais il y a constamment une confusion entre le travail que nous faisons, nous. On n'invente pas, on dit ce qu'on voit, après enquête détaillée, on dit ce qu'est le droit, on dit comment s'en servir. Après, ça n'enlève pas, mais ça donne toute sa place normale au débat, et qui est souvent très mélangé. Et dans ce que disait, je termine là-dessus, pour ne pas être trop long, Sophie Gardy tout à l'heure, moi j'ai fait le même constat qu'elle, et je crois que j'ai un peu la même réaction ambivalente. Depuis, en gros, les événements de janvier 2015, on parle beaucoup plus de laïcité. Ce qui est un côté positif, parce qu'avant, on n'en parlait pas, on ne savait pas ce que c'était, on supposait que c'était acquis, etc., etc. Mais en même temps, c'est assez troublant qu'on en parle après les attentats terroristes, comme si la laïcité avait directement ou indirectement à voir avec le terrorisme, ce qui est une thèse qui mérite quand même débat. Le voile n'est pas l'antichambre du djihad, même si on a ces problèmes de zones grises, enfin, qui sont d'ailleurs des problèmes d'analyse politique, philosophique et d'ordre public compliqués. Donc on en parle plus, mais on en parle dans une très grande confusion d'esprit, avec une tendance qui est forte chez des tas de responsables, au fond, dans une époque où les idéologies s'affaiblissent, le sens, nous sommes en quête de sens, on se raccroche à des valeurs sûres, la laïcité et la République. Mais il ne suffit pas de crier comme un cabri sur sa chaise pour parodier le général de Gaulle « laïcité, laïcité » ou « république, république » pour régler les problèmes des zones de non-droit, pour régler les problèmes de discrimination, de ségrégation, de ghettoïsation, d'inégalité, d'injustice, etc. Et donc, il faut sans arrêt distinguer les différents plans. Voilà, donc moi, ce que je souhaite, c'est travailler avec des journalistes et des chercheurs, et nous continuerons à le faire pour mieux comprendre ces phénomènes, pour nourrir notre propre réflexion et celle des organes de presse et des journalistes sur ces phénomènes-là, et pour appeler à contextualiser, à vérifier le fait, à distinguer le fait de l'opinion et l'opinion du droit. Ce n'est pas très compliqué, ce sont des principes de base, à mon avis, de la déontologie journalistique.
Merci beaucoup, monsieur, et je crois que vous avez aussi, dans votre intervention, éclairé combien la tentation de la conflictualité parfois Exactement. Peut aussi motiver des démarches médiatiques. Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler dans le débat. Et maintenant, je vais donner la parole. Nous avons décidé, pour des raisons d'organisation, je n'entre pas dans les détails, de donner la parole en dernier lieu à Cyril Lemieux. Et donc maintenant, tout d'abord, ça va être à Éric Vinson que je donnerai la parole, qui est enseignant et journaliste spécialisé sur le fait religieux et laïque, École de journalisme de Sciences Po, Institut catholique de Paris, docteur en sciences politiques, il collabore au monde des religions, il a dirigé la rédaction de Prier. Aujourd'hui, il est responsable scientifique de l'association Enquête, qu'il a présidée pendant 3 ans, et il préside le fonds de dotation Grandir Ensemble, laïcité, religion, éducation. Vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Alors, en fait, la première chose que je voudrais préciser, c'est que nos échanges ne concernent pas seulement les médias et les religions ou le fait religieux, mais aussi l'université, le monde de la recherche. En fait, on est, je pense, sur un triptyque, en fait. Hein. Et au fond, je dirais, par rapport aux deux réalités qui nous occupent, aux deux sphères, aux deux systèmes, le système religieux d'une part et le système médiatique, il y a aussi donc ce système universitaire. Et ces trois mondes, en quelque sorte, sont en crise. Hein. Je crois qu'il y a en crise au sens premier du terme, c'est-à-dire pas seulement quelque chose de négatif, une difficulté. Il y a des difficultés. Mais aussi un bouleversement, une transformation. Et dans le cas de ce bouleversement, de cette transformation, par rapport à ce qui nous occupe aujourd'hui, ils sont, ces trois acteurs, en complémentarité, rivalité. Il y a à la fois des relations très ambiguës, où en fait on se regarde mutuellement, on s'instrumentalise mutuellement, on travaille ensemble, comme dans des écosystèmes, en fait. Et en même temps, il y a beaucoup de malentendus, et il y a des tensions inévitables, en quelque sorte, hein, liées à des contradictions de position, hein, et de champ. C'est un propos, je dirais, un peu introductif pour essayer de mettre de l'ordre dans tout un tas de phénomènes extrêmement complexes et variés qu'on a évoqués les uns et les autres. Au fond, on pourrait dire qu'il y a une question de cléricature dans tout ça. Hein. On va dire, il y a les clercs au premier sens du terme, hein, au sens historique, c'est-à-dire donc les religieux. Il y a les clercs, les intellectuels, hein, au sens de Julien Binda, la trahison des clercs. Et puis, il y a les nouveaux clercs, les nouveaux seigneurs, comme dirait Régis Debré, c'est-à-dire les journalistes. Hein. Et donc, on est dans une question qui pourrait résonner avec la laïcité à un sens très, très large, hein, de ces cléricatures, comme je le disais, qui sont à la fois liées et en même temps en concurrence ou en contradiction. Les facteurs de crise, on les connaît, hein, c'est-à-dire c'est la grande transformation anthropologique que nous connaissons aujourd'hui, sous le nom de globalisation, mondialisation, sécularisation, et aussi, bien sûr, toute la question du virtuel, du web, hein, ce qu'a souligné Jean-François Mayer, hein, et qui atteint, de plein fouet, nos trois sphères d'activité. Et tout particulièrement, je pense, la sphère des médias, hein, avec donc aussi une dimension de crise proprement économique, hein, de questions économiques et de questions, là aussi, de contraintes économiques qui ont des effets professionnels. Et je renvoie à ce que disait Jean-Louis Bianco à l'instant sur les questions de déontologie professionnelle, c'est-à-dire qu'on doit rappeler un certain nombre de choses sur le métier de journaliste pour mieux comprendre différents sujets qui ont déjà été abordés et différents malentendus en particulier. C'est-à-dire, déjà par exemple, je dirais les différences de rythme, ça a été dit, de rythme de travail,
mais aussi des différences de capacité à exprimer sa pensée de façon nuancée, de façon précise, et donc des contraintes de langage, tout simplement, par exemple. Je me rappelle de l'exposé d'hier sur la question de la loi sur la dissimulation du visage dans l'espace public. L'une des choses qui m'est venue, que je n'ai pas pu dire hier, mais qui me semblait frappante, c'est qu'en effet, dans un article, on devrait répéter le vrai nom de la loi. Hein, bon, mais quand vous êtes journaliste, l'une des règles professionnelles, c'est qu'on ne fait pas de répétition, ou on évite les répétitions. Donc même si vous savez, par exemple, que le vrai nom de la loi, c'est celui-là, eh bien, vous allez à un moment donné mettre anti-burqa, hein, parce qu'en plus, vous gagnez 20 signes. Hein. Et le journaliste fait la chasse aux signes. Je parle sous le contrôle de mes collègues, confrères qui sont là. Vous voyez, quand vous avez, je sais pas, 1000 signes pour expliquer tout ça, ou et encore 1000 signes, c'est déjà beaucoup, hein, ou quand c'est 200 signes parce que c'est un filet ou une brève. Oui. Et ça fait partie de ces contraintes structurelles qui conduisent à des effets de simplification, de caricature, de malentendus, etc. Donc c'est une chose qu'il faut, je pense, rappeler tout de suite, qui est essentielle. Quand je parlais aussi donc de difficultés proprement professionnelles, il y a bien sûr la précarisation en quelque sorte des journalistes, mais aussi la précarisation des universitaires et certainement aussi la précarisation d'un certain point de vue des acteurs religieux, qui tend aussi, je pense, à multiplier un certain nombre de personnes qui sont un peu comme, enfin, dans ma position, hein, et j'en ai croisé d'autres au cours du colloque, vers des personnes qui ont plusieurs casquettes, hein, c'est-à-dire qui naviguent entre ces mondes. Par exemple, quand on est un spécialiste du religieux en France, eh bien, si on n'est pas rentré dans les ordres, ou si on ne travaille pas dans la sphère confessionnelle directement, on va être amené peut-être à travailler à l'université sur ces sujets, ou aussi dans les médias. Hein. Et je le signale, je sais pas quand tirer, vous voyez, c'est vraiment pour l'instant assez incoatif dans mon esprit, cette question-là, mais je pense que c'est intéressant de voir ce type de cette émergence de type de figure. Et donc j'étais assez frappé par ce que dit Jean-François Mayer sur cette locution de journalisme académique, parce qu'au fond, moi, c'est le type de position dans laquelle je me retrouve, c'est-à-dire à essayer, en effet, de faire des ponts entre ces milieux, entre ces sphères, dans l'idée que c'est indispensable, compte tenu de toutes les transformations que nous transformons. Que nous expérimentons, que nous connaissons. Et voilà, nous sommes face à des univers qui mutent extrêmement rapidement, en interaction les uns avec les autres. Et donc nous avons besoin, en effet, de calmer le jeu, de pondération, de déontologie, de rigueur, enfin tout ce qu'a dit aussi M. Bianco, hein, de précision, de vulgarisation de qualité. Hein. Mais il y a des contraintes systémiques qui rendent cette vulgarisation de qualité difficile, voire impossible. Et là, on retrouve aussi l'expérience de Sophie Guérardi et du site ferrologie.com, par exemple. Comment se fait-il qu'un projet de ce type, en France, n'arrive pas à trouver sa rentabilité économique ? Alors, bon. Là, on est en effet dans des questions fondamentales et qui ne sont pas que liées à la question du religieux, bien sûr. Il y a la question de l'économie de la presse, de l'économie d'Internet, et en plus, je dirais, la difficulté spécifique du religieux en France. J'irai de l'analphabétisme religieux et laïque, hein, l'analphabétisme religieux et laïque, qui explique en partie la mauvaise qualité globale, je crois, de ce qui se dit quand même sur les médias, dans les médias sur nos sujets, hein, je dirais plutôt une mauvaise qualité, et avec un effet justement d'incapacité à s'en sortir, parce que comme on entend tout le temps ces lieux communs, tous les exemples qui ont été donnés par les uns et les autres, par exemple la question des crèches ou autre. On baigne dedans et donc ça se conforte toujours plus. Il y a maints exemples. Le dernier que j'ai entendu, c'était hier, je crois, donc c'était sur France Info. Claude Almos, la psychanalyste, qui parlait, vous savez, elle a une chronique régulière sur France Info et donc des djihadistes, et qui disait, elle parlait de ces gens qui sont manipulés par la religion. Pardon. On dit, oui, il y a des problèmes psychiques, mais ils sont manipulés par la religion. Je me dis, bon, alors c'est pas une journaliste, hein, d'ailleurs, voilà, quel est son statut? C'est un expert, etc. Bon. Mais on entend ce genre de choses, voilà, et on est dans ce bain permanent, hein, bon, qui est bien sûr, et je crois, très dommageable, très peu rigoureux, mais voilà, c'est la réalité. Hein. On a affaire à cette problématique d'analphabétisme général et donc qu'il nous faut essayer de lutter peut-être en travaillant mieux avec ces trois acteurs, avec ces trois systèmes, hein, système médiatique, système clérical ou religieux, confessionnel en tant que tel, et système universitaire, en se disant au fond que le religieux est un révélateur par excellence en ce moment, et la laïcité, de ces difficultés, et que pour ce qui est de la France, nous avons un problème spécifique dans ce domaine. Des fois, je dis que la France est un pays sous-développé dans le domaine de la connaissance du religieux et donc aussi de la vulgarisation du religieux. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été mentionné par Jean-François Mayer, qu'on a créé avec Marine Quenin qui est dans la salle ce fonds de dotation Grandir ensemble, laïcité, religion, éducation, pour au fond prendre acte de cette difficulté sociétale pour ce qui est de la France, qui est vraiment quelque chose de très profond et de l'ordre des mentalités, et au fond créer un outil qui aurait pour fonction de permettre de dépasser ou de travailler sur cette difficulté spécifique, notamment dans la sphère médiatique, mais aussi en lien avec la sphère universitaire, pour rétablir des ponts, en quelque sorte, et de la rigueur dans les propos, de la qualité dans les échanges, du débat démocratique, ce qui passe bien sûr par des enjeux de formation. Et c'est là où on en arrive à l'expérience de formateur, en tout cas enfin, d'enseignant à l'école de journalisme, où en effet, donc pendant plusieurs années, j'ai essayé de faire ce travail. Alors en 12 heures, voilà, vous avez 12 heures par exemple, vous imaginez le parcours de jeunes journalistes qui font un milliard de choses, vous avez 12 heures pour leur expliquer le fait religieux et la laïcité. Alors avec beaucoup d'intérêt de leur part, sachant que moi c'était un cours à option, donc j'avais une partie de la promotion. Et en même temps, voilà, donc de la curiosité et aussi évidemment des immenses lacunes. Donc là aussi, on prend conscience, je dirais, de la réalité et de ce en quoi on est confronté à des difficultés spécifiques. Et donc, comme il me faut terminer, je terminerai sur ces pièges du langage, au fond, qui renvoient à des problématiques à la fois journalistiques, scientifiques et aussi politiques. Quand vous parlez par exemple de croyants et de non-croyants, vous avez un mot à prononcer dans la presse, c'est une mauvaise dichotomie pour parler de nos sujets. Croyants et incroyants dans la société sécularisée, ce n'est plus opératoire. Mais c'est comme ça qu'on dit. On ne peut pas dire autrement si on veut être compris. Radicalisation, je suis convaincu, alors ce sont autant de débats bien sûr, mais que le débat est parti sur des mauvais termes. Ces termes sont des mauvais termes. Islam radical, radicalisation. On ne peut pas s'en sortir aujourd'hui. On est déjà prisonnier. Voilà, donc on pourrait multiplier les exemples. On en parlera peut-être. Je vous remercie.
Voilà, je vous remercie. Je vois que chacun de nos intervenants lance de nouvelles pistes. J'espère que les organisatrices ont prévu déjà une heure supplémentaire pour le débat. Et tant dans l'intervention que nous avons entendue que dans les propos introductifs de Madame Guérardi, il y a évidemment cet aspect auquel nous devons toujours penser, qui sont les contraintes tout simplement économiques. Et personnellement, je dois dire que je pense que j'ai longtemps rêvé d'une agence de presse spécialisée dans le religieux non confessionnel pour le monde francophone, et je pense qu'elle n'est financièrement pas viable pour des raisons tout simplement de masse critique, le nombre de locuteurs, mais c'est dommage. Mais nous allons peut-être en apprendre plus et surtout avoir un témoignage sur d'autres aspects grâce à l'intervention maintenant de Valentine Tsoubert, que je pense tout le monde connaît ici, directrice d'études à l'EPHE et titulaire de la chaire Religion et relations internationales. Je vous laisse la parole sans plus tarder.
Merci beaucoup. Mon propos se distinguera un peu des personnes précédentes parce que j'ai pris le parti, un petit peu en fonction des questions qui m'ont été posées, de vous présenter plutôt un témoignage personnel de ce que peut être le rapport d'un chercheur avec les médias. Alors je ne prétends pas dire que ça peut être généralisé, et je serais très heureuse d'avoir des échanges sur ce sujet parce que c'est vraiment une approche empirique et puis par mes expérimentations depuis maintenant un certain nombre d'années. Deuxième mot d'introduction, je n'étais pas du tout préparée à avoir affaire aux médias lorsque j'ai commencé à faire de la recherche. Je travaillais sur la tolérance religieuse, c'était dans les années 90. Ça n'intéressait que très peu les médias. Et c'est grâce, si je puis dire, à ce retour, peut-être pas du religieux, mais de la laïcité dans le débat public à partir de la fin des années 90, que petit à petit, eh bien, j'ai été de plus en plus sollicitée par les médias. Alors la première question que vous me posiez, c'est êtes-vous sollicitée par les médias? Je dirais oui, finalement, si je fais le compte, je suis allée revoir dans mes papiers, je suis relativement sollicitée. Alors je ne peux pas mesurer par rapport à quelqu'un d'autre, mais il se trouve que maintenant, je réponds à peu près une interview toutes les semaines, c'est une moyenne, ça peut être évidemment beaucoup plus. Et cela empire, je dirais, lorsqu'un grand média à large couverture, comme par exemple Le Parisien ou France Info m'interviewe, eh bien là, il y a comme une cascade de demandes qui aboutissent sur mon téléphone portable, et ce qui pose d'ailleurs le problème un peu des sources des journalistes, parce que finalement, les journalistes lisent Le Parisien aujourd'hui et écoutent France Info et trouvent des sujets grâce au Parisien et à France Info. Donc ça, il y a un effet boule de neige, donc, qui est heureusement, Jean-Louis Bianco on le disait, souvent assez court, enfin heureusement pour le chercheur, et puisque l'actualité va à toute vitesse et une actualité chasse l'autre. Tous médias confondus, je suis régulièrement intervenue dans la presse généraliste, surtout au moment de crise, pour des demandes d'éclaircissement ou de contextualisation. Et je parle ainsi, comme tous les autres, d'affaires à grand bruit médiatique, comme Le Voile à l'école. Bon, on est un petit peu passé là, ça c'est un petit peu passé, heureusement. Mais vous évoquiez l'affaire des crèches. J'ai une pratique d'affaires de crèches, si vous voulez, qui s'est étalée sur 2 ans. Hein, donc c'est un marronnier saisonnier. Au mois de décembre, on m'interviewe sur les crèches dans les mairies. Les jupes, les attentats, etc. Donc ça, c'est pour les médias généralistes. Une presse plus spécialisée, plutôt la presse plus confessionnelle, type La Croix, ou Réforme me tuerait si je disais que c'était de la presse confessionnelle, mais enfin disons, ce genre de presse. Et la presse étrangère, en particulier, me sollicite pour des traitements sur des dossiers plus longs, souvent, concernant pas seulement la laïcité, mais aussi la liberté religieuse, pour lequel je suis plus, à mon avis, à mon aise, et pour des dossiers, donc, moins en moment de crise. Alors, dans quels médias j'interviens? Presse écrite, radio, télévision. C'est comme le disait Sophie Guérardi, c'est pas moi qui les sollicite, hein, c'est eux qui viennent me chercher. En général, c'est pour tout de suite, quoi. Donc, il n'est pas question de les faire patienter, ou alors la place est prise. Alors, vous posiez une question sur à quel titre les chercheurs en sciences sociales sont-ils sollicités par les médias? Je pense que c'est une question extrêmement pertinente, parce que ma pratique montre que la réponse n'est pas du tout évidente. Hein. Essentiellement, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est à but d'expertise, mais très souvent, moi j'ai eu le sentiment que c'était juste ma parole était comme une confirmation de ce que le journaliste pensait déjà, hein, et de ce dont il voulait rendre compte. Hein, et j'ai eu affaire, et comme Jean-Louis Bianco le disait, à des gens en général très bien informés, hein, et qui connaissent bien les dossiers. Et il y a comme une dichotomie, comme quelque chose, un gap, on ne comprend pas pourquoi le bruit médiatique peut paraître aussi faux, alors que les personnes auxquelles on parle, en général, sont bien informées et comprennent ce que vous dites et font les liaisons. Et essaye de le rendre d'ailleurs le plus honnêtement possible, sauf à certains moments que j'évoquerai tout à l'heure. Donc, j'ai le sentiment que les journalistes viennent chercher auprès des chercheurs en sciences sociales et humaines plus une confirmation de leurs sentiments profonds et une formulation académique qui serait autorisée, une espèce de vernis, face à l'événement. Ensuite, vous avez posé une question qui, là aussi, m'a semblé extrêmement pertinente et qui m'a fait réfléchir sur ma pratique, c'est-à-dire vous demandiez si les médias conféraient un statut particulier à la parole du chercheur, qui expliquerait donc la convocation de ceux-ci devant les médias. Alors là, je dirais, j'aurais une réponse un petit peu balancée. Ça dépend des médias. De mon point de vue, alors c'est grossièrement, hein, mais de mon point de vue, les médias écrits et la radio ont plus tendance à insister sur l'importance qu'il y a de s'appuyer sur une réflexion de type académique pour ensuite décliner les différentes opinions sur tel ou tel sujet à l'aune de cette expertise. Donc il y a une espèce de primeur donnée dans ces médias à l'analyse académique. Et je dirais même que d'un point de vue rhétorique, hein, parce que la rhétorique compte, on en a parlé, le propos de type académique leur sert à rythmer, hein, une sorte de rythme, des différentes opinions qui sont ensuite présentées. Il est ainsi conféré donc à la parole des chercheurs une certaine primauté, dans la mesure, hein, où elle peut énoncer, et ça c'est quand même une mesure restrictive à mon avis, une sorte de doxa, hein, une parole qui serait sûre, hein, une certitude, ou tout du moins un rappel nécessaire un peu pour les nuls sur le sujet. Mais En revanche, en ce qui concerne mes rares expériences, fort heureusement, je dois le dire, mes rares expériences télévisuelles, elles m'ont été parues plus marquées par une exposition, là, délibérément voulue par les organisateurs, d'une exposition à égalité des différentes opinions. Et alors, dans cette configuration, le propos du chercheur est rapidement ravalé à une opinion parmi d'autres, et parmi toutes celles qui sont autorisées. Le plateau doit être équilibré avec ce qu'il faut de pour et ce qu'il faut de contre. Et les opinions qui sont représentées doivent être nécessairement balayées le spectre de la question jusqu'aux plus absurdes et des plus révoltantes. Et vous vous voyez mis à côté de gens qui ont des propos, mais absolument à se faire dresser les cheveux sur la tête, et vous devez sourire à la caméra en essayant de se demander comment vous allez pouvoir répondre à des propos pareils. Bon, évidemment, ça tient aussi au rythme qui est extrêmement saccadé, rapide, et ce tempo fait qu'il est beaucoup plus difficile de mettre en lumière les différents niveaux de discours qui ont été successivement présentés. Et on a un peu l'impression que le présentateur, d'ailleurs, a une certaine satisfaction dans un désordre assumé dont il est le seul à détenir l'ordre et le but auquel il veut aboutir. Et voilà, on confronte, ça me rappelle de la défunte émission, les plus jeunes ne peuvent pas connaître, de Michel Polak, où tout le monde s'engueulait à qui mieux mieux, mais on a un peu l'impression que c'est ce modèle, on a un peu adouci, qui est retenu par ce genre d'émissions télévisées, où les opinions les plus contrastées possibles doivent donc nécessairement s'entrechoquer pour ne pas risquer d'ennuyer, parce que, voilà, on est là, il ne faut pas ennuyer. Et donc il paraît, dans ce genre d'émission, de mauvais goût de donner un statut particulier aux chercheurs, pour deux raisons à mon avis. D'une part, cela nuirait à l'aspect d'agora pseudo-démocratique que l'on veut présenter aux téléspectateurs. Et en plus, laisser trop de temps aux professeurs, c'est risquer que les téléspectateurs, redevenus comme des élèves qu'ils ont été, perdent le fil comme dans leurs pires souvenirs scolaires. Et un téléspectateur qui s'ennuie, c'est un téléspectateur qui zappe, ce qui n'est évidemment pas le but recherché. Enfin, comme vous le savez, le chercheur en sciences sociales répugne en général à donner une explication univoque, et donc il est toujours soupçonné de finalement embrouiller le débat plutôt que de l'éclairer, ce qui est évidemment là non plus pas le but recherché. Autre question que vous me posiez, est-ce que les chercheurs sollicitent les médias ? Je vous réponds tout de suite non, c'est eux qui viennent. Comment peuvent-ils accéder à cet espace ? Alors là, c'est le grand mystère, encore une fois. Je pense qu'il faut que vous ayez un ami aux Parisiens, parce que ce moyen est infaillible. Le chercheur, autre question plus profonde, le chercheur doit-il endosser le rôle médiatique ? Eh bien, ça, c'est une question qu'évidemment, moi, je me suis posée depuis le début. Et je crois qu'on n'a plus le choix. Je crois qu'on n'a plus le choix quand on est sur des sujets dits chauds. Ou sur du très contemporain. Je crois qu'on ne peut plus y couper. Et pour deux raisons. Des raisons pas seulement d'ego ou d'effectivité ou de nécessité d'une expertise un peu distanciée, qui est aussi une sorte de diffusion de la recherche, qui est le mot poli pour dire vulgarisation, mais aussi dans une stratégie professionnelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à propos du djihadisme en particulier, il y a certains chercheurs qui règlent leurs comptes scientifiques à travers les médias. Ça me paraît tout à fait incroyable, mais je crois que ça existe. Et on a un risque, là il y a un risque effectivement, alors vous vouliez que je pointe aussi les risques de cette exposition, ce risque c'est de devenir des essayistes, c'est de devenir des publicistes, c'est de voir son expertise finalement, et là encore, ravalée à la simple opinion. Alors... Est-ce que les analyses des chercheurs sont de manière égale rapportées par les médias ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et elles n'intéressent évidemment les journalistes que si elles répondent à une actualité particulière. Alors je ne parle pas ici des revues qui peuvent s'autoriser de temps en temps de faire des dossiers un peu plus détachés de l'actualité. Parfois même, il y a des quotidiens, Le Monde s'y prête depuis un certain temps avec des doubles pages sur des sujets précis. Je pense par exemple à une double page qui nous avait, enfin, dans laquelle nous avions tous participé sur l'espace public dans Le Monde il y a quelques semaines, sur la laïcité et les religions dans l'espace public. Mais en général, ce n'est pas ce sont vraiment les sujets d'actualité chaude qui sont considérés. Dans ces dossiers, je finis sur ces dossiers, ce qui est intéressant, c'est que les journalistes multiplient les interviews de différents chercheurs sur le même sujet, comme si il y avait une espèce de règle du pluralisme obligé qui existe là encore, et comme si on ne veut pas se mouiller avec tel ou tel auteur, et donc on croise les angles afin de couvrir, le prétexte c'est de couvrir le sujet, mais finalement ça tend à mon avis à proposer des digests et ça aplatit généralement un peu la pensée parce que chaque chercheur a le droit à une ou deux phrases, une ou deux idées extrêmement rapidement exprimées. Alors quelles sont les contraintes et les attentes auxquelles on doit faire face face à la demande médiatique? Je pense qu'il y en a beaucoup pour le chercheur. Je les cite en vrac, question bateau qui esquive les vrais enjeux, temps d'exposition et nombre de propositions trop limitées, coupure de vos propos, coupage, je ne sais plus comment on dit d'ailleurs, on coupe au montage, on simplifie abusivement les propos, on n'a aucune maîtrise sur les produits finis, très peu de journalistes vous envoient le papier avant de l'éditer. Il est balancé, en particulier sur Internet, ça va très très vite. Erreur récurrente, alors là c'est un private joke, mais sur les fonctions et les institutions d'appartenance, je vous apprends que je suis à l'école des hautes études en sciences sociales pour 80% des journalistes. Mais bon, voilà, oui c'est en bloc. Bon, et puis... quelquefois, vous avez des moments extrêmement désagréables. Vous avez passé une demi-heure, une heure avec un journaliste au téléphone qui vous téléphone toujours à un moment où vous avez évidemment autre chose à faire, mais peu importe. Et puis, il se sert de ce que vous avez dit pour nourrir son propos et généralement le propos qu'il se prête à lui-même. Et puis, en revanche, il se sert de vos suggestions, par exemple de décrire à tel ou tel autre collègue ou chercheur qu'il va interviewer et qu'il fait intervenir dans son papier. Enfin, il y a une mise, c'est une littérature, enfin, c'est une forme littéraire. Ils font dialoguer des chercheurs entre eux, mais pas forcément en les citant tous. Hein. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est fait de manière malhonnête ou si c'est simplement que le journaliste s'est approprié votre pensée et considère que il peut s'en servir comme étant la sienne. Mais enfin, il y a des choses comme ça qui arrivent. Autre risque, et qui me concerne tout particulièrement, c'est que vous êtes catalogué ad vitam aeternam à un seul des sujets qui constitue ou qui a constitué votre recherche. Et pour moi, c'est très malheureux parce que je travaille sur tas d'autres choses que la laïcité, mais on ne m'interroge que là-dessus. Donc... je le regrette, mais c'est comme ça. Et donc, ça peut mettre dans des positions compliquées, parce que j'ai des collègues dont c'est plus spécifiquement l'objet d'études. Et évidemment, j'ai beau dire aux journalistes, mais vous n'avez qu'à interroger un tel. Eh bien non, parce que c'est maintenant, c'est tout de suite, et il n'y a pas de temps à perdre. Alors, je terminerai sur la dernière question qui m'a fait beaucoup réfléchir. Je ne suis pas sûre d'y apporter une excellente réponse. Vous me disiez, les médias sont-ils des objets en science des religions et de la laïcité? Alors, je me suis demandé ce que c'était que ça. Alors, j'ai répondu aussi comme je pouvais. Les médias proprement religieux peuvent certainement être des objets d'étude, mais ça vous le comprenez, en sciences des religions et de la laïcité. Et un certain nombre de travaux sur le religieux contemporain ou sur la laïcité ne peuvent plus faire l'impasse sur l'étude et des analyses proprement médiatiques des différents sujets traités. Les autres, on peut y réfléchir, mais ce serait plutôt à mon successeur d'en parler et d'en dire. Mais en revanche, je terminerai un petit peu par une pirouette, ce n'est peut-être pas un hasard si l'on a pu parler de grand messe à propos du journal télévisé de 20h sur les télévisions françaises. À ce titre, la multiplication des chaînes et des propositions de flash d'information à toute heure et surtout l'apparition des chaînes d'information continue ont peut-être contribué, ce sera le mot de la fin, à séculariser aussi les médias comme d'autres institutions avant eux.
Merci beaucoup. Et s'il y a des journalistes dans la salle, ils auront appris quelque chose, c'est que si vous soumettez une liste de questions à Valentine Soubert, elle y répondra. Elle a été vraiment la plus stricte par rapport aux listes de questions qui nous ont été soumises. Devoir accompli, et merci, parce que ça éclairait bien des points. Et immédiatement, je vais donner la parole à Cyril Lemieux, qui est directeur d'études à l'EHESS, et là c'est juste, oui, à l'EHESS, et il est spécialiste de la sociologie des médias et de l'espace public, et donc il va en quelque sorte lier la gerbe analytiquement, sans doute de tout ce qui a été dit pendant cette table ronde, mais qu'il se sente très libre dans ses propos. Je vous laisse la parole.
Merci. Je vais peut-être commencer par préciser un petit peu le cadre dans lequel je voudrais m'exprimer. Je n'évoquerai pas en réalité les médias religieux, c'est-à-dire ceux qui assument ou qui revendiquent dans le traitement de l'information de faire prévaloir un point de vue religieux ou le point de vue d'une religion. Je voudrais plutôt parler du cas qui est aujourd'hui archi-dominant dans nos sociétés, celui de médias qui se définissent comme des médias d'information dont l'idéal est ce que j'appellerais un traitement laïque de l'information. Et donc je vais moins parler du traitement de l'information sur la laïcité que du traitement laïque de l'information, qui est un phénomène en somme beaucoup plus vaste. Alors dans cet idéal journalistique d'un traitement laïque de l'information, ce qui est prohibé, c'est d'abord le prosélytisme religieux, le fait, autrement dit pour un journaliste, de faire valoir ses orientations religieuses dans le traitement d'une information. Mais ce qui est aussi prohibé, c'est ce qu'on pourrait appeler le prosélytisme anti-religieux, c'est-à-dire le fait pour un journaliste de dénigrer les phénomènes religieux ou les attitudes religieuses dans le traitement de l'information. Donc cet idéal journalistique d'un traitement laïque de l'information rejoint en somme, à bien des égards, l'attitude du sociologue des religions, je dirais, pour lequel il faut considérer les faits religieux comme des choses, pour paraphraser Émile Durkheim. Et le fait que l'idéal laïque de la presse d'information et la sociologie est émergé en même temps, de ce point de vue-là, historiquement, je veux dire, n'est pas forcément anodin. Donc cette analogie entre le journaliste laïque, appelons-le comme ça, et le sociologue, ouvre la possibilité d'alliance entre eux, j'y reviendrai, mais elle permet aussi de prendre la mesure de la difficulté extrême qu'il y a dans les deux cas à être à la hauteur de l'idéal de distanciation auquel on souscrit, parce qu'en fait, il est tout sauf facile de traiter les phénomènes religieux avec distanciation, traité comme des choses, qu'on soit sociologue, journaliste. Et pour y parvenir, il est évident que la bonne volonté ne suffit pas et qu'il faut utiliser, je me réfère encore une fois à Durkheim, des règles de méthode. Et lorsqu'on observe les journalistes travailler, lorsqu'on les observe dans des rédactions, on voit effectivement qu'ils mettent en œuvre un certain nombre de méthodes de distanciation. C'est le premier point sur lequel je voudrais insister. On peut décrire certaines de ces règles de manière très empirique. Alors, moi, dans mes travaux, je leur ai donné des noms, je vais y aller très vite. Par exemple, une règle que j'appelle la distanciation énonciative, c'est-à-dire le fait de se présenter comme un locuteur distinct de la source, hein, de montrer au public qu'il y a d'un côté la source qui s'exprime, de l'autre côté le journaliste qui s'exprime. Autre règle que j'ai appelée la conservation de l'initiative, donc se présenter comme ayant le leadership de la relation avec la source, autrement dit, montrer qu'on n'est pas une courroie de transmission de la source. Autre règle, ce que j'appelle la polyphonie, s'efforcer de donner la parole à l'ensemble des parties mises en cause dans un conflit, la vérification des faits, ou encore la séparation des faits et des commentaires. Il était fait allusion tout à l'heure par Jean-François Meyer quand il parlait par exemple de l'adjectif disqualifiant, qui est effectivement une infraction à cette règle de séparation des faits et des commentaires. Donc le non-respect de ces règles de distanciation, donc pour alléger la liste, est à l'origine de critiques que les journalistes s'adressent les uns aux autres, mais aussi de critiques que leur adressent certains membres du public. Donc je dirais, ces règles de distanciation et leur infraction, c'est le fondement de nos sens critiques par rapport au journalisme. Je reviendrai aussi là-dessus tout à l'heure. Maintenant, la question de savoir qu'est-ce qui limite le respect de ces règles, car il est évident que ces règles sont très très souvent enfreintes par les journalistes. Eh bien, je dirais essentiellement des règles, d'autres règles, qui sont des règles organisationnelles liées à la dimension, ça a été dit par les quatre intervenants précédents, à la dimension économique de l'activité. Alors, j'ai cité trois de ces autres règles, ces règles, disons, plus organisationnelles. L'une qu'on peut appeler le respect des formats de production, c'est-à-dire que les journalistes ont pour traiter l'information un temps imparti et des moyens impartis, par exemple, ils ont 3 heures pour faire un reportage et ils ont une équipe de 4 personnes, pas plus. Voilà. Il faut travailler dans ces contraintes. Deuxième règle, ce que j'appellerais le non-dépassement par la concurrence, il ne faut pas se mettre en retard sur le traitement de l'information fait par des médias directement concurrents. Hein, et ça, c'est très important pour comprendre ce que Sophie Guérardet appelait tout à l'heure les pics névrotiques. Troisième règle organisationnelle, ce que j'appelle le respect des formats de diffusion, c'est-à-dire le fait qu'il faut faire rentrer, on pourrait dire, l'information dans une forme préétablie, en termes de longueur, si on est en presse écrite, en termes de durée, si on est dans l'audiovisuel, mais aussi en termes d'angle et de rythme. Hein, et souvent, le fait que les journalistes viennent vous voir avec déjà un angle, c'est essentiel. Hein. Donc, on peut faire la liste de tout ce qui nous énerve dans le traitement médiatique des questions religieuses et au-delà. Donc, ça a été dit, lorsque le journaliste illustre systématiquement un article sur le port du voile par une burqa, lorsque on s'emballe sur, je reprends les exemples de Jean-Louis Bianco, sur les crèches de la nativité, également toutes les expériences malheureuses que peuvent avoir les chercheurs. À chaque fois, si on regarde bien, on peut voir... peut désigner en fait ces règles organisationnelles comme la clé d'explication du fait que le journaliste a du mal à respecter ces règles de distanciation. Je peux donner d'autres exemples encore. Un qui m'avait frappé, le 24 septembre 2015, à La Mecque, il y a eu plus de 720 morts. Et si vous regardez ce qui s'est passé dans les médias français, c'est très 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 peu de choses. Et imaginez ça, un seul instant, 720 morts, place Saint-Pierre. Je peux vous dire que ça aurait marqué autrement. Bon. Donc, tous ces mécanismes-là sont liés à des formes d'organisation du travail journalistique. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, hein, mais on pourrait reprendre chacun de ces exemples pour montrer en quoi jouent ces règles organisationnelles. Et donc, je rejoins ce qui a été dit précédemment sur l'importance, autrement dit, du rôle de l'audience, etc. Moi, je le saisis plus au niveau des pratiques, donc je le saisis plus au niveau organisationnel, mais évidemment, tout cela est lié. Alors, peut-être qu'on pourrait dire... Alors moi, j'accorde donc une très grande place à cette question de l'organisation du travail journalistique. Et je pense que les journalistes doivent avoir, ils l'ont hein, souvent, mais on doit les aider à avoir une réflexion sur l'organisation du travail en tant qu'elle augmente ou qu'elle diminue leur chance de respecter leurs règles de distanciation. Je ne sais pas si c'est clair, mais il y a certaines organisations du travail qui rendent plus facile le respect des règles de distanciation. Autrement dit, je ne pars pas du principe que les journalistes n'auraient pas de règles de distanciation. Je pars du principe qu'au contraire, ils en ont, mais qu'ils sont plus ou moins empêchés de les respecter. Alors, on pourrait me dire aussi, oui, mais il y a la question de la formation. Alors, c'est vrai que la question de la formation, ça a été évoqué, elle est importante. Il y a effectivement des cas où la faiblesse, par exemple, de la formation religieuse du journaliste est flagrante. Mais aussi, je dirais, des formes d'ethnocentrisme social, c'est-à-dire une certaine distance avec d'autres religions que celles qui sont liées à la culture dans laquelle on a été socialisé, une mécompréhension donc de ces religions lointaines, mais aussi un phénomène très très important, la sous-estimation du phénomène religieux dans le fonctionnement ordinaire de la vie sociale. Tout simplement parce qu'il y a des journalistes qui sont, eux, très peu orientés vers des pratiques religieuses, et donc ils ont tendance à universaliser leur position. Donc tout ça est tout à fait vrai, mais je le répète, si l'organisation du travail journalistique inclinait davantage les journalistes à faire preuve de distanciation, ces effets liés à la socialisation seraient en partie neutralisés. Donc c'est pourquoi, pour moi, le facteur important reste l'organisation. La culture de la distanciation professionnelle peut remplacer les préjugés liés à l'éducation religieuse ou anti-religieuse, ou du moins, je dirais, peut permettre de les tenir à distance. C'est pour ça que, s'il faut hiérarchiser les facteurs, pour moi, le facteur organisationnel prime sur la question de la socialisation, de la formation, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire dans ce sens non plus, bien sûr. Et puis, il y a un troisième élément qui, à mon avis, est peut-être encore plus central, qui nous invite là, cette fois-ci, à sortir de ce qu'on peut appeler le médiacentrisme. C'est-à-dire que les préjugés des journalistes joueront d'autant plus qu'ils n'ont pas accès à des contre-sources, qu'on pourrait appeler des contre-sources. J'entends par là des sources opposables aux sources auxquelles ils ont le plus facilement accès. Lorsque vous enquêtez sur des phénomènes dans lesquels vous avez accès à des sources et à des contre-sources, il est par exemple plus facile d'organiser, de respecter cette règle que j'appelle polyphonie. C'est-à-dire de donner la parole aux deux parties en conflit. Mais lorsque vous arrivez dans un phénomène où vous avez surtout une seule source qui s'exprime, et il est difficile, coûteux, lent d'aller chercher des contre-sources à leur opposer, vous avez tendance, pour la raison organisationnelle que j'indiquais, eh bien, à donner largement la parole à cette seule source. Et à ce moment-là, on a un traitement très unanimiste de l'information, donc c'est pas un traitement qui est à la hauteur de ce qu'on doit exiger en tant que citoyen. Voilà, donc plus, autrement dit, la société s'organise, produit des contre-sources, plus le travail journalistique devient facile, j'allais dire. En tout cas, moins il est compliqué, moins il est coûteux pour les journalistes de produire cette polyphonie. Alors en conclusion, je dirais, si on admet toutes ces analyses, peut-être trois pistes, pour ce que j'appellerais développer une conception laïque de l'information. Je reviens à mon point de départ. Donc j'affirme un point de vue normatif. Moi, personnellement, je suis pour une société dans laquelle se développe une conception laïque de l'information. C'est ce qui m'intéresse. Et donc, de ce point de vue-là, deux pistes. La première, développer la critique citoyenne du caractère insuffisamment laïque des médias. Donc, ça veut dire quoi concrètement ? Non pas se plaindre à un média en disant « vous traitez mal les catholiques ». Vous traitez mal les musulmans, mais leur dire plutôt, vous ne respectez pas vos règles de distanciation. Vous ne traitez pas assez les faits religieux comme des choses, autrement dit. Donc, ce que j'appellerais une critique laïque, en fait, et non pas une critique centrée sur une communauté religieuse, depuis une communauté religieuse, mais depuis le respect de règles de distanciation professionnelle. Ce qui nécessite une éducation, à ce moment-là, aussi au fonctionnement des médias, hein, bien sûr. Et puis, l'autre piste, bon, c'est celle qui émerge dans ce colloque aussi, c'est une alliance entre journalistes et chercheurs. Les historiens, c'est vrai, mais moi, je pense aussi beaucoup les anthropologues et les sociologues, qui auraient plusieurs avantages. D'abord, ces chercheurs, effectivement, peuvent aider à produire des contre-sources. Ils peuvent apporter d'autres sources à opposer à des sources officielles ou faciles d'accès. Ils peuvent aider les journalistes à ne pas sous-estimer l'importance des phénomènes religieux dans la vie sociale, dans le fonctionnement ordinaire, hein, ce que disait Sophie Gardier aussi, c'est-à-dire que c'est pas simplement dans les coups d'éclat, mais au quotidien, l'importance de la vie religieuse dans un certain nombre de milieux sociaux au quotidien. Et puis, dernier point, aider à travailler, je dirais, sur les critiques internes. C'est-à-dire enquêter sur la religion davantage de l'intérieur en montrant les tensions internes aux différentes communautés religieuses. Alors là, on revient à mon idée de contre-source, c'est-à-dire que bien souvent, les religions sont présentées comme homogènes et de manière homogénéisante. Et il y a une très très grave sous-estimation des conflits internes. Par exemple, je ne sais pas, prenons n'importe quelle religion monothéiste aujourd'hui en France, elles sont systématiquement homogénéisées. Au lieu de montrer qu'à l'intérieur même de ces communautés, ça travaille, la critique travaille. Et à ce moment-là, on évitera un certain nombre d'amalgames et et ça permettra aussi de développer dans ces communautés des formes d'esprit critique. Donc, en conclusion, simplement, je voulais dire une chose qui revient aussi à mon point de départ, c'est qu'il me semble que l'idéal laïque n'est pas, disons, un idéal de neutralité. Enfin, c'est plutôt, à mon avis, une forme d'engagement pour instaurer dans l'espace public un certain rapport à la religion. Et, je ne sais pas, je contrôle Jean-Louis Bianco, je ne sais pas s'il est d'accord avec cette approche. En tout cas, ça sera mon point final.
Je vous remercie. Eh bien, écoutez, nous avons eu de légers dépassements de temps pour chaque intervenant, mais aucun n'était dramatique. Et puis, tout était tellement intéressant que j'en étais sûr. Nous allons raccourcir le temps de la discussion. Oui, en fait, tout à fait. On m'autorise, c'est merveilleux, on nous autorise 25 minutes de discussion. Je n'en espérais pas tant. Je pensais que nous n'aurions plus que 5 minutes et j'allais utiliser mon autorité de modérateur pour l'étendre. Mais là, 25 minutes, ça nous laisse le temps, en effet, de lancer le débat. Alors, je pense qu'il doit y avoir des dizaines de questions. Je vois là-bas, Tim. Pardon ? À 20 minutes. Écoutez, selon ma montre suisse, on m'a dit 16h20 ici, mais bon, ça n'est pas grave. Alors, nous avons 20 minutes. Il y a ici Tim Jensen qui a une question. Voilà. Et si vous vous adressez à un intervenant précis,
Merci de signaler son nom, et sinon, qui voudra prendra la question.
Thank you for the presentations, all of you. I was especially interested in the last speakers, because you did not only mention what I mentioned yesterday, sort of the two different languages of the scholars, experts on the one side, the academicians, and then on the other side, the journalists, the media. You actually pointed to something that could be similar to the two parties, sort of that I think that it is worthwhile working out sort of the secular approach or the secular ideals of both sides in order to figure out where do we actually meet on this, and not least in regard to what we call religion. Because this is the expertise of the scholar of religion, to have exactly a distanced and comparative historical approach also to contemporary religion, but that's also a secular one, right? In order to defamiliarize the public with religion. But you say actually that there is also this norm, these ideals within journalism. So this is a point where we could sort of meet. That's one remark. The other one I have is that we had a research done in Denmark a couple of years ago where it turned out that the increase in the media in use of experts, especially social scientists, it had been like this over the past 15 years. And one of the conclusions was that what the journalists actually used the experts for was to be those who could, at the end of the day, appear as the neutral ones. So the experts, the academics, came out as the opinion makers, while the journalists just sort of held the microphone. And that's another thing that's a little bit interesting in regard to what we are talking about. Yes, okay, thank you.
Deux choses. D'abord, la question de la sécularisation comme point commun des chercheurs d'une part et des journalistes. Je ne dirais pas, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais à un moment, il me semble que vous avez parlé de mythe. Mon approche n'est pas celle d'un mythe, c'est de dire que ça correspond en fait à des pratiques observables dans les deux professions, hein, on est d'accord ? Elle se rencontre, oui, non, mais j'ai compris, mais à un moment, il y a la notion de mythe, simplement. Ah bon ? Bon, alors j'ai mal entendu, j'ai mal compris. Donc on est d'accord, ok. Sur le rôle croissant des experts, je pense que c'est très lié à des conditions économiques aussi. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut dire on externalise la production. Vous n'avez plus besoin de faire vous-même l'analyse et le travail d'enquête. Vous avez, en France par exemple, le service public produit des chercheurs. C'est gratuit. Généralement, ils ne sont pas payés quand vous les consultez. Vous dites simplement, il a écrit ce dernier livre, voilà, c'est fait. Et maintenant, j'utilise son expertise. Ce premier point, donc, il va amener des données, il va amener un regard. Et puis, deuxième élément, ce que j'appelais les formats de diffusion, c'est-à-dire qu'on a déjà l'angle. Hein. Enfin, là, je parle de certains médias, hein, il ne faut pas non plus généraliser, mais des médias dans lesquels l'expert va être mis dans une case prévue à l'avance pour dire quelque chose prévu à l'avance avec une petite variation, mais voilà. Et s'il ne joue pas le jeu, il est trappé, il n'est pas intéressant. Donc, pour les chercheurs, l'enjeu, ce n'est pas tellement, à mon avis, de participer ou pas dans les médias. Je suis d'accord que c'est devenu... Et puis, c'est quelque chose peut-être qu'on doit à la nation, j'allais dire. C'est les conditions dans lesquelles on participe. Moi, personnellement, lorsque je n'ai aucune maîtrise sur le format de diffusion, je ne participe pas. Ça ne sert à rien. Enfin, ou alors, ça peut se réfléchir aussi, parce qu'on peut dire... Par exemple, si vous avez 10 secondes pour parler, hein, dans certains cas, en télévision, vous allez avoir un son, ça va faire 10 secondes. Qu'est-ce que vous voulez dire en 10 secondes ? Et la seule chose qu'on peut dire en 10 secondes, à mon avis, on peut casser une idée reçue. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc il faut réfléchir à ça. En 10 secondes, je vais juste dire... voilà, je suis dans... Alors là, on peut participer à ce moment-là dans les cases prévues à cet effet. Mais il me semble que le véritable défi pour nous, ça serait de réfléchir avec les journalistes à la transformation des formats, en fait. C'est-à-dire de travailler beaucoup plus en amont dans la détermination des angles journalistiques, par exemple. Dans la détermination des démarches journalistiques d'enquête. Et à la limite, de ne pas apparaître à l'écran en tant qu'interviewé, mais d'être dans une forme de collaboration en amont où on va suggérer une complexité, des pistes, des contresources au moment de déterminer la problématique, déterminer l'angle. Voilà. Donc, mais ça, ça ne peut fonctionner qu'avec, à mon avis, dans un premier temps, qu'avec certains types de médias, certains types de journalistes, et aussi d'ailleurs certains types de chercheurs.
Avant la question de madame, Éric Vincent souhaitait intervenir sur ce point.
Oui, je voulais juste réagir, en fait, oui, sur le, pour redire à quel point la différenciation des types de médias est importante en la matière. Ça a été aussi dit plus ou moins par certains intervenants, mais d'abord, bien sûr, entre télé, presse écrite, radio, etc., et les formats qui correspondent, les contraintes structurelles dont on parlait, mais je dirais bien sûr aussi entre positionnement de médias. C'est vrai que le monde des religions, par exemple, quand il parle des religions, ne le fait pas de la même façon que le Parisien. Enfin, voilà. Pour mille raisons. Voyez. Et donc, tout ça a des effets et qualitatifs et quantitatifs qu'il faut aussi prendre en compte. Hein. Et puis la presse confessionnelle ou non confessionnelle, et ainsi de suite. Et je dirais, ce que j'observe, je crois, c'est qu'en effet, on parle de plus en plus de religion et de laïcité, mais je crois qu'on en parle... Enfin, c'est impressionniste, hein, il faudrait le mesurer, tout ça, si on pouvait. Mais on en parle, je crois, assez mal, parce qu'en effet, les gens qui en parlent ne sont pas équipés pour en parler. Hein, soit parce qu'ils ne sont pas formés pour ça, soit en raison des contraintes structurelles, professionnelles, qui ont été si bien identifiées par Cyril Lemieux. Et donc, voilà, il y a cette réflexion de comment faire pour améliorer les choses. Et donc, vous avez envisagé un certain nombre de pistes aussi, Jean-Louis Bianco. Hein, c'était d'un travail en amont entre voilà, un organe comme l'Observatoire de la laïcité, par exemple, et puis des communicants, des journalistes, des experts. Voilà. C'est, à mon avis, un genre de choses à inventer. Je ne crois pas que ça existe dans d'autres domaines, je ne suis pas sûr, hein, mais comme type de préoccupation citoyenne, en fait. Hein, que les citoyens ensemble se rassemblent pour améliorer le niveau du débat démocratique.
Voilà. Voilà, oui, en effet. La religion, il y a peu de gens qui sont qualifiés pour en parler, mais tout le monde a un avis sur le sujet. Donc, madame, je vous laisse peut-être poser votre question.
Oui, je vous remercie beaucoup pour vos contributions très éclairantes. J'ai une question sans doute simple. Vous avez évoqué le fait que les médias évoquent tragiquement souvent les événements des faits religieux plutôt... parfois tragiquement ou positivement, c'est-à-dire c'est les événements dont on parle, c'est pas la profondeur. Et justement, je me demande et j'aimerais votre avis sur pourquoi les médias reflètent si peu le rôle social des religions et leur contribution. Merci.
Les autres intervenants pourraient le faire. Je crois que ça a été dit dès le début, y compris par... par Sophie Guérardi, parce qu'on n'a pas l'habitude en France, ou pas suffisamment l'habitude, ou pas suffisamment de culture, pour parler des religions. Je crois qu'il y a une lacune de la société, et pas seulement des journalistes sur ces sujets-là, y compris dans la dimension sociale du fait religieux, et pas seulement la dimension spirituelle. Et c'est en train de changer, je pense.
Voilà, il y a deux interventions ici.
Oui, moi, juste une hypothèse. Je pense qu'on a aussi une concurrence. On est dans un État, enfin, qui est de moins en moins, mais de welfare state. C'est l'État qui prend en charge le social. Et évidemment, aussi dans toute cette histoire de laïcisation qui a été traumatique en France, eh bien, l'action sociale des églises et des mouvements religieux est plutôt disqualifiée, je dirais, momentanément.
Et puis il y a des effets aussi, on pourrait dire, du logiciel médiatique sur le religieux. C'est-à-dire, par exemple, le religieux, c'est ancien. Enfin, c'est des choses anciennes. Donc, éventuellement, quand on parle du patrimoine, etc., ben, on va en parler. Mais si on parle de l'hyperactualité, en général, on ne va pas, compte tenu de l'état des mentalités, penser que la religion, le religieux, c'est du chaud, ça se transforme, ça bouge. Ça fait partie des idées qui ne sont pas reçues, pour le coup. Hein. Il faut lutter contre ça. Et puis, je dirais, là aussi, la complexité, au fond, de ce qu'est le religieux. C'est-à-dire, on a une question fondamentale, c'est qu'est-ce que c'est le religieux ? Qu'est-ce qui est religieux ou pas ? Hein ? Et là-dessus, on a tous aussi nos idées, plus ou moins, alors ici, plutôt bien travaillées, mais disons que dans le public, et même parmi les élites, voilà, on va étiqueter comme religieux certaines choses, d'autres non. Pourquoi ? Ben, ça, c'est comme je dis, un problème de mentalité. Hein ? Et je crois que de ce point de vue-là, la mentalité française, en effet, a des caractères assez particuliers, spécifiques, qui rendent les choses peut-être un peu plus compliquées qu'ailleurs.
Voilà, je crois qu'il y a une question là-bas. Ah non, ah oui, alors ici, en revanche, très bien.
Merci pour l'intervention. pardon pour mon français, que c'est pas très bien. Parfois, j'ai l'impression que nous parlons peu des outils médiatiques que les religions utilisent pour être armurées. Je peux faire ça. Je peux parler en armurée. En face aux approches médiatiques, les consultatifs de presse, les médias religieux, comment est-ce que ça marche en France? Comment est-ce que vous voyez ça?
Ah, alors voilà, la place des médias religieux, proprement parlé, dans ce contexte laïque, mais ils sont là, qu'ils acceptent ou non l'étiquette confessionnelle, quel est leur rôle, comment est-ce qu'ils, quelle place est-ce qu'ils occupent?
Je dirais qu'il y a, en fait, pour avoir travaillé dans la presse confessionnelle, la première chose à dire, c'est que la presse confessionnelle, c'est un secteur en crise dans un secteur en crise. On pourrait dire, on va cumuler les difficultés, en quelque sorte. Comme on a dit, la presse papier, par exemple, est en grave crise structurelle. Et puis, les religions institutionnelles aussi sont en crise institutionnelle. Enfin, en tout cas, l'Église catholique, par exemple. Et donc, quand vous êtes un média confessionnel catholique, vous êtes atteint des deux côtés. Donc, ça fait des problématiques extrêmement complexes et restrictives, hein. Alors après, là aussi, il faudrait, je pense, regarder les différentes religions selon leur positionnement dans la scène française, hein, le judaïsme, l'islam, chacun le bouddhisme, et le protestantisme, voilà, exactement. Chacun a des problématiques spécifiques en fonction de ses moyens, de ses... voilà.
Oui, il y aura, oui, s'il vous plaît. Non,
juste un mot, là encore, je n'ai pas donné scientifique, mais d'expérience, il me semble que les médias confessionnels sont assez souvent... un peu meilleur que la moyenne des médias, y compris sur la question de laïcité.
Voilà une déclaration qu'on retiendra. Et effectivement, il y aurait aussi une question à se poser. C'est sur le nombre de périodiques d'inspiration confessionnelle qui ont fermé leurs portes au fil des dernières décennies parce que leur lectorat a disparu. Il y aurait toute une enquête à faire, tout simplement, pour redresser la géographie à l'inventaire. S'il vous plaît.
Oui, je voulais apporter un complément de réponse à la question précédente. Les religions utilisent aussi des outils de communication classiques comme le média coaching ou le média training. Des évêques se forment à parler devant des journalistes et des agences font ces prestations. Il y a des conseils d'agences en communication numérique. Le diocèse de Versailles, pour organiser un synode il y a 2 ans, avait les conseils d'une agence en communication pour la stratégie, ce qu'il fallait mettre en avant, et aussi pour les dispositifs techniques numériques. Donc il y a aussi tout un appareillage numérique d'une part, et de conseils qui est présent dans la société civile, qui est utilisé par des acteurs religieux. Et oui, bien sûr. Après, il y a des espaces d'échange entre des professionnels du web. Par exemple, je ne sais plus comment s'appelle ce réseau des webmasters et techniciens du numérique catholique. Et puis certains créent leurs outils numériques. Vous citez à l'instant Padre Blog. Et puis, bien sûr, il y a des sites de prière confessionnelle, Notre-Dame du Web, une retraite dans la ville et beaucoup d'autres. Donc, il y a une conversion d'un certain nombre de courants religieux aux outils numériques et de communication. Dans l'Église catholique, le réseau optique par les dominicains, OP pour Ordinis Predicatorum, les prêcheurs, TIC pour les technologies de l'information et de la communication, dirigé par Eric Salobir, c'est à la fois se doter d'outils et d'une réflexion sur les outils numériques pour communiquer dans la société.
Vous avez encore 5 minutes pour poser des questions à cet extraordinaire panel d'experts. Donc, qui veut saisir cette chance encore? Voilà, s'il vous plaît.
Bonjour. Ma question s'adresse plutôt à monsieur. Vous parliez des conditions économiques qui pourraient entraîner l'organisation telle que vous l'aviez décrit et qui pourrait être améliorée. Ma question porterait plutôt sur l'auditeur ou même l'internaute. Je travaille pour le site internet d'un média ultra généraliste. On s'intéresse aussi peu aux questions de religion, c'est aussi parce que l'audience ne suit pas toujours et on a un devoir de citoyen, on a aussi ce devoir de séduire entre guillemets les lecteurs. Et quand je fais un papier avec une mise en perspective historique sur les enjeux de la rencontre entre le pape François et le pape et le patriarche Cyril, ça marchera moins bien que quand je fais un papier sur la burqa. Donc je vais le faire une fois, il va faire 50 vues, je le ferai peut-être pas une deuxième fois. Et les médias ont aussi une visibilité au moment de ces moments-là, des moments de quand il y a des grandes affaires de burqa, quand il y a des grandes affaires de quand on parle de terrorisme. C'est là aussi que j'ai l'impression que on s'intéresse aux médias et qu'on les critique plus. Mais voilà, il y a des efforts qui sont faits, et qui sont peut-être pas forcément suivis dans l'électorat. Donc ma question est comment mesurer ça, comment appréhender ça et comment essayer de le résoudre et d'essayer de trouver des techniques de séduction, de captage du lecteur, tout en gardant cette distanciation et en renforçant sa déontologie. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais...
En fait, il y a d'abord un enjeu, à mon avis, très important, c'est de défendre le journalisme, en réalité, dans son rapport de non-dépendance mécanique à la question de l'audience. Donc ça, c'est un enjeu pour les professionnels, d'arriver à dire, on va faire quand même des articles qui vont être moins lus, moins cliqués, etc. On va les faire quand même pour des raisons professionnelles. Donc ça, c'est un peu votre combat à vous. Je pense qu'on peut aussi vous aider, parce que c'est l'intérêt général qui est en jeu. C'est de savoir si on est capable d'opposer à des normes de rentabilité, de productivité, des normes professionnelles. Donc il faut faire admettre dans les rédactions qu'il y a des moments où on va faire des articles moins cliqués que ça. Deuxième chose, c'est vraiment un exercice. Pour moi, c'est le clou du journalisme que de rendre, je prends des termes qu'emploient parfois certains journalistes, que de rendre sexy des sujets qui ne le sont pas. Parce que rendre sexy un sujet qui est sexy, c'est fastoche. Mais rendre sexy un truc qui n'est absolument pas sexy, là, on voit du journalisme. Là, on voit des stratégies journalistiques. Là, on voit du travail journalistique. Donc, on pourrait prendre les choses à l'envers et dire c'est génial. Ces sujets, c'est des sujets où on va pouvoir exploser son talent, faire valoir son talent. Alors, dernier point, la rencontre, on peut... Moi, je ne suis pas... Il y a un problème qui est le fameux... on s'intéresse qu'au train qui n'arrive pas à l'heure, etc. Bon, beaucoup de gens disent... c'est pas, moi, je trouve que c'est normal, en fait, personnellement, que les médias d'information soient orientés vers les dysfonctionnements de la société, vers ce qui ne va pas dans la société... Et ils ne sont pas là, à mon avis, pour faire uniquement des choses sur, voyez, sur ce qui va bien. Bon. Moi, ça ne me dérange pas, autrement dit, qu'on soit axé sur la polémique. Mais justement, allons jusqu'au bout. Et allons enquêter à l'intérieur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Allons enquêter à l'intérieur de certains univers sur lesquels on est informé uniquement par la communication. Là, ça rebondit sur la question précédente. Hein, parce que maintenant, il y a des écrans de communication qui font que... on n'a pas forcément accès. Alors, le travail journalistique aussi, ça serait d'accéder à l'intérieur de ces communautés, de ces univers, d'aller chercher des contre-sources et de nous montrer, par exemple, comment l'Église orthodoxe critique ou pas la rencontre du patriarche, etc. Moi, je ne sais pas, j'ai pas suivi ça de près, hein, mais est-ce qu'il y a eu des articles, beaucoup d'articles, sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des orthodoxes là, quand, voilà. Ça peut nous intéresser d'avoir une vision... plus conflictuel, de voir plus les conflits. Donc, moi, autrement dit, je pense que la tâche journalistique, c'est pas d'amoindrir les conflits, c'est au contraire de les faire ressortir. Voilà. Bon, alors tout ceci, évidemment, avec les contraintes économiques dont on parlait, on est bien d'accord. Il y a des limites, on est bien d'accord, mais je pense qu'il faut pas renoncer. Voilà, tout simplement. Ou alors, il faut changer la définition du journalisme professionnel.
Éric Vincent,
juste en un mot, dire que moi, ce que j'essaie de dire là-dessus aux étudiants journalistes, c'est en fait que leur travail, c'est de rendre accessible, intéressant et compréhensible ce qui est important. Voilà, c'est ça le travail de journaliste. Mais on le dit très peu en fait. Hein. Je veux dire, je sais que souvent ils aiment bien. Ça leur précise un peu les choses, ça les essaie. Et deuxièmement, j'aime bien aussi une citation que vous connaissez sans doute, mais que je crois vraiment au cœur du sujet de Camus qui disait mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Hein. Alors moi, je l'ai écrit en gros au-dessus de mon bureau. Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Et le journaliste aujourd'hui, c'est celui qui doit nommer les choses. Hein. Et donc voilà, c'est le défi.